Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr. Il paraît que c'est un adage, jamais 203. Salut Jean-Loup.
Salut Baptiste. Oui, c'est triste. Hein.
Bah pourquoi c'est triste?
Non, c'est challenging, on va dire. Hein.
Voilà,
c'est
ça, ça te rend triste de venir ici?
Ah non. Ici, c'est... Attends,
pour la troisième fois.
Ah non, je suis très très heureux. Je suis venu le 6 novembre, le 20 et là maintenant encore maintenant.
Ah, en plus, tu te rappelles des dates.
Parce je me rappelle des dates parce qu'on les retrouve facilement. Tu sais, quand tu as des copains, tu dis, ben voilà, moi je me suis exprimé et tu fais Radio Diwa interview et tu trouves. C'est clair. Donc c'est bien. Mais moi, surtout, ce qui me fait plaisir, c'est d'arriver dans une radio libre, peut-être la dernière de France, je ne sais pas.
Non,
on a le droit de s'exprimer.
Il y en a d'autres.
Si je continue de dire ce que je pense, comme Christian Perron vient de le faire.
On va rentrer dans le détail, et puis c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a à peu près quelques 900 radios associatives en France, et il y en a bien un bon deux tiers qui doit être très libre.
Bon, bah, ça va nous
donc,
sauver.
Donc, parole libre pour toi. Aujourd'hui, tu veux nous parler des vaccins.
Mais oui, je pense qu'on était un peu long. C'est les vaccins et puis pareil, le masque et puis le reste. Parce qu'avant, on plaisantait, on disait un jour, il faudra payer pour avoir le droit de respirer. Aujourd'hui, c'est ça. Tu veux respirer en ville, bah, ça te coûte 135 euros. C'est pas une blague. Donc, c'est quand même sérieux. Surtout qu'il n'y a pas de raison à porter le masque. Réellement, il n'y a pas de raison à avoir le confinement, il n'y a pas de raison à avoir le traçage tel qu'il est fait. Et ce que je voudrais lire...
Sauf celle de désengorger les hôpitaux qui sont exsangues par les politiques.
Oui, mais on sait que c'est faux. Je pense que ça serait intéressant que je vous lise, en espérant que je vais lire correctement, un texte qui vient d'être publié par Christian Perron. Et là, c'est une personne complètement indépendante qui est quand même le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Garches en France. Et donc, il a écrit une petite page et je pense que ce sont des informations qui sont importantes à vous lire. Donc, il l'a écrit récemment, il l'a écrit le 30 novembre. Et voilà ce qu'il dit. Donc, il dit « La France, qui vit un cauchemar depuis des mois, se réveille. Dans beaucoup de villes de notre beau pays, le peuple est en marche pour retrouver sa liberté, pour exiger le retour de la démocratie. En tant que médecin, spécialiste des maladies infectieuses, ayant été président de nombreuses instances ou conseils de santé publique, y compris sur les vaccins, je mesure chaque jour les incertitudes générant la peur et le désarroi croissant de nos concitoyens. Je prends le risque d'être à nouveau qualifié de complotiste ou mieux rassuriste, terme désignant ceux qui critiquent ou challengent la pensée unique. » Ce que fait Edgar Morin, c'est pareil, il dit maintenant, dès qu'on s'écarte de la pensée unique, on est complotiste. Je finis par être fier de ces appellations, mes propos exprimant la vérité n'ayant jamais changé depuis le début de l'épidémie. Je considère donc qu'il est de ma responsabilité de m'exprimer à nouveau ce jour sur l'ensemble du volet médical de la Covid-19 et en particulier sur le sujet vaccinal, désormais l'élément central et quasi unique de la politique de santé de l'État. Ça, c'est très grave. Et c'est vrai. Beaucoup de Français ont été hypnotisés par la politique de la peur. Même Asselineau a précisé qu'effectivement, si on regarde bien les yeux du chef de l'État, il a un regard hypnotique. Et c'est bien ce que l'on mesure après. Depuis septembre 2020, on nous avait annoncé une deuxième vague terrible de l'épidémie, pire que la première. Le ministre de la France Santé, le docteur Olivier Véran, le président du Conseil scientifique de l'Élysée, le professeur Jean-François Delfrécy, le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon de l'Institut Pasteur, nous ont annoncé des chiffres catastrophiques, avec une augmentation exponentielle du nombre de morts. Les hôpitaux devaient être saturés et débordés. Même le président de la République, lors d'une allocation télévisée récente, annonçant le reconfinement, nous a prédit pas moins de 400 000 morts, renchérissant sur les 200 000 morts estimés peu de temps auparavant par le professeur Arnaud Fontanet de Pasteur. Ces chiffres irréalistes n'avaient qu'un but, entretenir la peur, pour nous faire rester confinés, sagement masqués. Pourtant, l'usage généralisé des masques en population générale n'a aucun intérêt démontré scientifiquement pour enrayer l'épidémie de SARS-CoV-2. L'utilisation des masques devrait être ciblée pour les malades, leur entourage, surtout les personnes à risque et les soignants au contact. Et là, vraiment, je voudrais demander aux officiels de l'État, donc à Camille, notre sous-préfète, au major de la gendarmerie, de nous dire pourquoi est-ce qu'on doit porter un masque. On ne peut pas nous imposer un masque comme ça sans aucune raison. Qui nous donne les textes, puisque les textes officiels venant réellement des professionnels médicaux libres nous démontrent que le masque ne sert pas. Voilà, c'est écrit d'ailleurs sur la boîte en plus. Or, l'épidémie régresse et n'a entraîné aucune apocalypse. La dynamique de la courbe montrait depuis des semaines le profil d'un rebond épidémique saisonnier qui s'observe avec certains virus une fois la vague épidémique terminée. Cela témoigne de l'adaptation du virus à l'homme et est aussi le reflet de l'immunité collective qui progresse dans la population et qui nous protège naturellement. Les souches de virus qui circulent actuellement ont perdu de leur virulence. Les autorités ne pourront pas dire que c'est grâce au confinement, car la tendance à la baisse avait commencé avant même sa mise en place. La régression de l'épidémie avait même commencé dans certaines agglomérations avant l'instauration du couvre-feu. Et on ne parle pas de la Suède, qui elle n'a rien fait et qui a la meilleure immunité collective. Résultat, la deuxième vague, ils ne l'ont pratiquement pas connue, parce qu'ils ont une immunité collective. C'est l'interprétation logique. Malheureusement, il y a encore des décès qui surviennent chez des personnes très âgées, des grands obèses ou des personnes souffrant d'un diabète sévère, d'hypertension artérielle grave, de maladies cardio-respiratoires ou rénales déjà invalidantes. Ces personnes à risque sont parfaitement identifiées. Les mesures sanitaires devraient donc être ciblées pour les protéger, les dépister et les traiter le plus tôt possible dès le début des symptômes par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, dont l'efficacité et l'innocuité sont largement confirmées si on donne le traitement précocement. Voilà. Beaucoup de décès auraient pu être évités. Or, on a dissuadé les médecins généralistes et les gériatres de traiter. Dans ce contexte, continuer à persécuter nos enfants derrière des masques inutiles reste incompréhensible. Et là, c'est vrai que c'est vraiment, là, je peux dire le mot criminel, de porter des masques ou de faire porter des masques à des enfants, de porter des masques quand on les regarde. Là, j'ai une petite histoire à te raconter pour ça. Toutes ces mesures sont faites pour que les Français réclament le vaccin. Ah, ça, c'est clair, si on a peur, on accepte n'importe quoi. Or, quel est l'intérêt d'un vaccin généralisé pour une maladie dont la mortalité est proche de 0,05%? Aucun. Cette vaccination de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices. Et ça, je pense que les businessmen qui sont derrière le savent très très bien. Le plus inquiétant est que de nombreux pays, dont la France, se disent prêts à vacciner dans les semaines qui viennent, alors que la mise au point et l'évaluation de ces produits se sont faites à la va-vite et qu'aucun résultat de l'efficacité ou de la dangerosité de ces vaccins n'a été publié à ce jour. Nous avons eu le droit qu'à des communiqués de presse des industriels français et des industriels fabricants permettant de faire flamber leurs actions en bourse. Ça, c'est vraiment clair. Et si on regarde ce qui se passe derrière, j'ai deux, trois choses dessus, on voit les sociétés qui sont derrière et qui ont dit, le président de Acuitas Thérapeutique, A-C-U-I-T-A-S, qui fabrique justement les nanoparticules lipidiques qui vont être mises dans les vaccins, qui est peut-être la seule raison d'être du vaccin d'ailleurs, a dit et a écrit, c'est publié, c'est officiel, c'est pas du complotisme stupide, il a dit, publié, on a été poussé par les vaccins à mettre au point ce produit rapidement sans le tester et sans vérifier l'innocuité. Il l'a dit.
Tu as dit par les vaccins. Par qui ils ont été poussés? Par les...
Par les vaccins, par les fabricants de vaccins.
Ah, par les fabricants.
Okay. Par les fabricants de vaccins. Donc, le pire est que les premiers vaccins, je poursuis la lettre, le pire est que les premiers vaccins qu'on nous propose ne sont pas des vaccins. Alors ça, c'est très important. Ce sont des produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront la fabrication d'éléments du virus par nos propres cellules. Et on ne connaît absolument pas les conséquences de cette injection, car c'est une première chez l'homme. Ça, c'est très, très grave. À chaque fois qu'on emploie le mot vaccin, c'est vraiment tromper le monde. Vraiment tromper le monde, c'est terrible. C'est une première, c'est peut-être une avancée technologique énorme, mais personne ne sait quelles vont être les conséquences. Et si les cellules de certains vaccinés fabriquaient trop d'éléments viraux, entraînant des réactions incontrôlables par notre corps, ça c'est une question qu'on peut se poser. Les premières thérapies géniques seront à ARN, donc c'est acide ribonucléique, mais il existe déjà des projets avec l'ADN. Donc l'ADN, ça, tout le monde connaît. Normalement, dans nos cellules, Le mésage se fait de l'ADN vers l'ARN. Mais l'inverse est possible dans certaines circonstances. D'autant que nos cellules humaines contiennent, depuis la nuit des temps, des rétrovirus dits endogènes intégrés dans l'ADN de nos chromosomes. Alors là, c'est compliqué, mais c'est quand même quelqu'un qui parle et qui sait de quoi il parle. Donc ils disent, ces rétrovirus domestiqués, entre guillemets, qui nous habitent, sont habituellement inoffensifs. Transcriptase inverse, capable de transcrire à l'envers de l'ARN vers l'ADN. Ainsi, un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait coder pour de l'ADN tout aussi étranger qui peut alors s'intégrer dans nos chromosomes. C'est-à-dire que réellement, on va modifier notre ADN. Ça, c'est fait pour modifier notre ADN, mais personne ne sait dans quelle mesure, comment ça va être fait. Donc encore une fois, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique.
L'objectif, donc, c'est qu'on soit des OGM.
Ça va être ça, en fait, en quelque sorte.
Si notre ADN ne répond plus à ces virus-là, voilà, c'est une sorte d'idée d'immunité par l'ADN.
Et personne ne sait comment récupérer s'il y a un problème. Personne ne sait, hein. Ça c'est clair. Alors, il existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité, par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre ces modifications génétiques à nos enfants. Alors ça, c'est hyper grave. Et bien entendu, les gens, les businessmen qui sont enrichis là-dessus, ils seront morts le jour où nos enfants auront les conséquences que l'on peut imaginer. Donc, les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques, faussement appelés vaccins, sont des apprentis sorciers et prennent les Français et plus généralement les citoyens du monde pour des cobayes. Alors, ils vont nous dire, bien sûr, qu'eux, ils ont une pensée complexe, que c'est trop complexe, qu'on ne peut pas comprendre. Donc, on est stupide. Donc, taisez-vous et faites-vous vacciner. Mais c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Nous ne voulons pas devenir comme les tomates ou le maïs transgénique des OGM, organismes génétiquement modifiés, pour ceux qui l'ont oublié. Un responsable médical d'un des laboratoires pharmaceutiques fabricants a déclaré il y a quelques jours qu'il espérait un effet de protection individuelle, mais qu'il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la dynamique de l'épidémie. C'est bien là un aveu déguisé qu'il ne s'agit pas d'un vaccin. C'est un comble. Et ça, je l'ai vu, j'ai vu la vidéo réellement, où on dit que les personnes vaccinées ne seront pas forcément protégées et pourront continuer de transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, où est le bénéfice ? Alors, je suis d'autant plus horrifié que j'ai toujours été en faveur des vaccins et que j'ai présidé pendant des années des instances élaborant la politique vaccinale. Aujourd'hui, il faut dire stop à ce plan extrêmement inquiétant. Louis Pasteur doit se retourner dans sa tombe. Il ne faut pas oublier que Louis Pasteur, qui a créé la vaccination, à la fin de sa vie, c'est lui qui a dit cette phrase historique. Il a dit, finalement, le virus n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire que lui-même qui avait utiliser et tester la vaccination, disait qu'en fait, la vaccination, c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas une solution qui vient de l'extérieur, c'est une solution qui vient de l'intérieur. Le terrain, c'est-à-dire, c'est son système immunitaire, et c'est le système immunitaire qui nous permet de se protéger de tous les virus et des bactéries et de tout le reste. Mais c'est notre système immunitaire qui compte.
Le vaccin, c'est le pansement sur la jambe de bois, quoi.
Très bien, c'est à peu près ça. Mais c'est comme pour le Monopoly. Dans ma première intervention, j'avais dit le Monopoly, il a été créé pour démontrer que le capitalisme ne marchait pas. Bon, eh ben, y a des petits malins qui ont repris tous les droits du Monopoly et puis qui l'ont détourné complètement pour faire la promotion du capitalisme. Là, c'est pareil. Louis Pasteur nous dit non, mais le vaccin, ce n'est pas la solution. Et il y a des bons businessmen qui ont dit attends, on reprend ça et on va vacciner. Et maintenant, on vaccine l'univers. Allez, c'est moi qui ai la plus grosse. Et puis, vas-y. Non, mais attends, où on va ? C'est fou. Alors, la dernière phrase de Christian Perron, c'est la science, l'éthique médicale et par-dessus tout le bon sens doivent reprendre le dessus. Christian Perron. Voilà. Alors, moi, je suis content de pouvoir m'exprimer ici parce que je fais simplement passer des informations. Ce matin, j'ai eu une amie qui est venue me voir en me disant « Jean-Loup, qu'est-ce que je fais ? Ma mère est à l'EHPAD. Donc, c'est l'EHPAD dans le Diois, je ne dirai pas lequel. Et on vient de recevoir une lettre.
Probablement tous les EHPAD ont reçu cette lettre.
Voilà.
Donc c'est pas les EHPAD directs. Est-ce que c'est l'EHPAD ? On va régler le truc. Est-ce que c'est l'EHPAD qui envoie aux familles ?
Exactement.
Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait du gouvernement ou de l'ARS, du ministère de la Santé, écoute, et qui finirait par être transmis
Écoute, c'est pas signé. C'est bien fait, hein. C'est même pas signé. C'est même pas signé, ce truc. Alors, c'est un message alors, qui dit « Acceptabilité, vaccin anti-SARS-CoV-2 ». Le ministère sollicite la FEPAD pour tester l'acceptabilité du vaccin anti-SARS par les soignants et les résidents en EHPAD et en établissement de santé. Vous êtes prioritaire, quelle chance, pour la vaccination contre le SARS-CoV-2, dont le principal intérêt est de vous protéger des formes graves du Covid. Alors après ça, ils te disent, voici les récentes informations.
Attends, excuse-moi, je te coupe, mais là, encore une fois, la phrase est énorme.
Mais c'est énorme.
Relis juste la phrase, dont le principal intérêt
le est... Le principal est l'intérêt de vous protéger des formes graves de la Covid.
Donc ça ne protège pas
non,
du Covid.
Non, mais ils le disent.
Mais éventuellement de quelques formes graves.
Non, mais le truc...
C'est quand même incroyable. Non, mais la tournure de la phrase déjà démontre que... En fait,
mais bien sûr. Non, mais ils sont très très forts. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait voter des lois? Alors moi, c'est ça le truc qui me absolument inacceptable. C'est que les laboratoires qui produisent le vaccin et tous les gens qui interviennent pour les vaccins ont une immunité quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quels que soient les effets secondaires, quels que soient tous les problèmes qui peuvent être créés par les vaccins, eux ne peuvent pas être poursuivis en justice. Je vais te dire, il y a eu le procès de Nuremberg, je veux dire, il y en a quand même. À un moment donné, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est comme la transparence pour le business, le secret des affaires. On vote le truc, et ben maintenant, on n'a plus le droit de dénoncer un contrat frauduleux. On n'a plus le droit de prendre la photo de quelqu'un qui bat une autre personne. Non, mais attends, je ne sais pas. Non, là vraiment, c'est fou. Alors, les gens, pour terminer sur cet email, mon amie qui est venue me voir ce matin, elle me dit... Qu'est-ce que je fais, Jean-Loup? Parce qu'on est 6 enfants. Voilà, c'est ma mère qui est à l'EHPAD.
T'as pas fini de dire. Alors voilà, c'est que t'as 48 heures pour...
Oui, 48 heures pour répondre. 48 heures pour répondre. Et sinon, ils vaccinent. Alors, ils vont faire comme pour les Linky, c'est-à-dire que le Linky, il nous demande d'envoyer une lettre recommandée, et puis après ça, la personne qui parle français ou qui parle français, qui est juste au bord de la retraite, qui vient installer Linky, il dit « Ah, moi, je ne suis pas au courant de votre lettre. Hein. Moi, je suis un sous-traitant. Moi, on m'a demandé d'installer Linky, j'installe Linky. » Donc là, c'est pareil pour les EHPAD. On fait un beau truc, et puis après, bon, ils vaccineront qui ils veulent. Et en plus ça, ils nous interdisent l'entrée. Non, mais attends, mais où on va? Non, mais là, il y a de quoi quand même.
Pardon, mais je me permets un peu d'humour noir, mais c'est un peu idiot de vacciner les anciens. On n'aura pas le temps de vérifier si c'est...
Ah non,
ça marche.
C'est pas idiot dans le sens où ce qu'ils veulent, c'est tester, parce que c'est le truc.
Alors, oui, justement, pour tester, il faut avoir un... Oui. C'est une question de temps long, un peu,
oui,
non?
Mais attends. Et le professeur Perrand le dit, c'est-à-dire...
C'est du sarcasme.
L'objectif, hein. Non, mais l'objectif du vaccin, sincèrement, alors ça, c'est vraiment clair, c'est pas le virus. L'objectif du vaccin, c'est d'injecter des nanoparticules. Et là, vraiment, allez voir, ne croyez rien de ce que je vous dis, ne croyez rien de ce qu'on vous dit, allez voir sur les sites, regardez les sociétés qui fabriquent les nanoparticules lipidiques, regardez que c'est bien ça. Alors, il suffit d'avoir un iPhone et une personne qui a été vaccinée, eh bien, il y a des enzymes fluorescents qui se visualisent directement sur l'iPhone. Donc, on sait exactement si quelqu'un a été vacciné ou n'a pas été vacciné. Donc, après, c'est vite fait. La porte ouverte que ce soit maintenant, dans un an ou dans 10 ans, la porte ouverte où on bloque quelqu'un, on bloque à l'aéroport, on le bloque n'importe où, pour une raison ou pour une autre, exactement comme le système chinois, là, c'est vite fait. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui ont perdu la tête. Il y a des gens qui ont perdu la tête et il ne faut pas se laisser faire, quoi. Il ne faut pas se laisser faire. Et
dans l'objectif, c'est quoi? L'ultra-contrôle de la population?
Oui, c'est l'ultra-contrôle. Mais il n'y a qu'à voir...
Mais dans quel but? Moi, je me suis toujours posé cette question. À quoi ça sert d'ultra-contrôler la population?
Moi, je crois que c'est ce qu'on avait dit lors du premier entretien. C'est ça, c'est que les gens, à partir du moment où il y a un niveau de salaire, un niveau de notoriété publique, un niveau de pouvoir et de richesse qui est trop important, les personnes perdent la tête. Bon, on dit toujours, c'est cette phrase, cette personne est tellement pauvre qu'elle n'avait que de l'argent. Ben, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les personnes arrivent à un niveau où ils n'ont plus que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la plus grosse, sachant bien sûr la plus grosse fortune, parce qu'au lit, c'est des gens qui ne valent rien du tout. Ils sont incapables d'avoir une relation humaine avec leur entourage, même avec leur famille. Dans les familles, tous ceux qui connaissent des gens hyper riches vont dire la même chose. Ils s'entrebattent les uns contre les autres pour voler la fortune de l'autre, pour avoir intérêt que l'autre meurt pour lui piquer sa fortune, mais tout, c'est...
Faire le plus gros tas.
Mais oui, c'est exactement l'avoir, c'est l'opposé de l'être. Soit il y a les gens qui ont et les gens qui sont dans le diwa, on est diwa. On est diwa, il n'y a pas de grosse fortune de gens qui ont la grosse tête. Non, il y a des gardiens de la paix, il y a des professionnels de la santé, il y a des serviteurs de l'État, et on est tous ensemble. On est tous ensemble, on est au même niveau, on s'appelle par notre prénom. La raison pour laquelle le virus ne nous a pratiquement pas touchés, la peur nous a touchés. Alors la peur touchée, ça a rendu plein de gens malades qui se sont précipités, faire n'importe quelle analyse, n'importe quel truc, encombrer les services d'urgence, uniquement parce qu'ils avaient peur, pas parce qu'ils avaient le virus. Parce qu'encore une fois, nous, on a la chance dans le diwa d'avoir un système immunitaire qui est stimulé par les balades, par l'ensoleillement. On a un ensoleillement équivalent en Nice, attends, on a un super ensoleillement, on a des balades extraordinaires, et surtout, il y a un esprit social, une communication qui est géniale. Mais à partir du moment où on ne peut plus sourire, mais c'est comme ça qu'on meurt. Je disais, petite histoire, un ami de la mairie sort d'une grande surface au bout de la ville, je n'en ai pas le nom, et il rencontre un autre ami, ça s'est passé la semaine dernière, il rencontre un autre ami qui portait son enfant de 8 mois dans les bras. Donc il le regarde, l'enfant, aucune expression, vraiment aucune expression. Et par réflexe, il enlève son masque. D'un seul coup, l'enfant fait un grand sourire. Mais ça, et il m'a dit, moi j'avoue, je n'ai pas d'enfant, mais ça m'a touché. Parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte que toutes les expériences qui avaient été faites pendant la guerre sur les enfants qui ne voient pas le sourire de leurs parents, ils deviennent ils ont toutes les problématiques neuronales que l'on connaît. Là, regardez tout ce qui a été fait pendant la guerre. Mais là, on a l'impression que réellement, on veut...
Effectivement, ils n'ont pas le droit de le dire non plus, mais en ce moment, les professionnels, notamment en maternelle, à l'école... instituteur relève ce souci-là.
Oui.
L'incapacité à pouvoir faire transmettre une expression, parfois autrement que par la parole.
Hein, oui.
Faire un peu les gros yeux, sourire.
Mais bien sûr. Mais c'est... Non, mais là, de toutes les façons, je crois que c'est clair que quand on a vu tout ce qui s'est passé et tous les mensonges, mais clairement exprimés par tous les responsables de l'État, y compris le président, on ne peut plus faire confiance. Donc, en fait, c'est une très grande chance, en fait. Une très grande chance parce que cet épisode que l'on est en train de vivre au niveau mondial, parce qu'aux États-Unis, au Canada, en Asie, c'est exactement pareil. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis un petit peu partout et de communiquer avec eux. Pour l'instant, avec Internet, on peut le faire gratuitement. Donc, c'est assez
super. La réponse est la même dans tous ces pays.
C'est différent. C'est différent. Tu sais que au Québec, alors ça, chacun ne croit rien à ce que je vous dis, mais vérifiez vous-même sur le Journal du Québec. J'ai vu, maintenant, ils n'ont pas le droit de recevoir chez eux. Et même, tu n'as pas le droit de recevoir quelqu'un. Personne. Tu n'as pas le droit de recevoir quelqu'un chez toi. Donc, ils font croire que dans tous les pays du monde, le virus est en train d'exploser. Alors qu'il baisse. Mais ils le font croire. Et à la radio, ils en parlent. Et il n'y a que les personnes seules qui ont le droit de recevoir une personne à la fois. Mais tu te rends compte ? Non, mais attends, mais ils veulent précipiter les gens vers la mort, quoi. C'est pas possible. Bon, un peu dans tout...
C'est quand même paradoxal d'entendre Olivier Véran dire là, il y a un problème de santé mentale chez nos Français. Ils sont en train de déprimer et tout ça. Alors, les mecs, ils font ça d'un côté et en même temps, ils te.
Non, mais c'est eux qui l'ont provoqué.
Et ils préviennent de l'autre que.
C'est eux qui l'ont provoqué. On ne peut rien attendre du gouvernement. Là, mais on ne peut rien attendre. La seule chose, c'est que c'est à nous, ensemble, avec nos gardiens de la paix qui sont super, nos personnels de santé qui sont vraiment dévoués, nos serviteurs de l'État qui ont choisi de travailler pour l'État et qui nous aident, mais on le voit tous les jours dans la rue, on le voit partout, que de nous prendre en charge, chacun individuellement. C'est fini, on n'est plus dans un système vertical, on est dans un système horizontal. Il n'y aura pas de révolution organisée, c'est fou. C'est chacun qui, d'un seul coup, va se sentir en disant « Ben non, je ne suis pas d'accord, pourquoi est-ce que je porte un masque qui ne sert à rien ? C'est écrit sur la boîte. Pourquoi est-ce qu'on m'enferme chez moi ? J'ai commis un crime ?» C'est le confinement. Olivier Véran lui-même, je le rappelle, j'ai déjà dit, mais le rappel, il a dit « Le confinement... » augmente la circulation du virus. Il l'a dit, mon Dieu, il l'a dit. Donc, et après, évidemment, avec un couteau derrière la tête, avec des grosses primes, avec tout son environnement, il est obligé de dire le contraire. Donc, on ne peut pas attendre ça. Et on a bien vu, parce que pour fabriquer ces chiffres artificiels en nous, tous les gens qui étaient morts de comorbidité, comme on dit, c'est qui étaient morts pour une autre raison, ils étaient qualifiés de morts avec le Covid.
Oui, mais, ça mais... aussi, c'est pareil, ne croyez rien et allez vérifier vous-même. Mais il y a un certain nombre de maladies qui ont totalement disparu.
Ah oui, il n'y a plus de grippe. Comme par hasard, il y a eu 200 grippes. Au lieu d'avoir 18 000 grippes, il y a eu 200 grippes. Bah, comme par hasard.
C'est quand même fort de café. On était arrivé en 2019, non, mais... après 4000 ans de cohabitation avec la grippe. On avait éradiqué la grippe et paf, le Covid arrive.
Tu ne peux pas comprendre. Tu es un inutile. Attends, arrête. C'est une pensée trop complexe. Il faut voir les choses en face. Mais c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ça a été dévoilé énormément parce que les hôpitaux avaient des primes. Mais ici aussi, dans tous les pays, ils ont des primes. À chaque fois qu'ils déclarent un Covid, les médecins aussi, même si c'est une petite prime, il y a une prime à chaque fois qu'on déclare un Covid, et c'est très très vite fait. Et après, le pire, c'est que quand il va y avoir, parce qu'ils vont y arriver, il y a tellement de gens qui ont peur qu'il y a certaines personnes qui vont se faire vacciner, eh bien, je peux te promettre que des morts à cause du vaccin, il n'y en aura aucun. Ce sera toujours les autres causes. Alors à ce moment-là, on va les retrouver, toutes les causes de comorbidité.
Alors on en est là, et tu parlais, et ça c'était quand même très intéressant, du fait qu'il fallait que chacun, tout un chacun, à un moment donné, passe à autre chose, dise non, effectivement. Ne se résigne pas.
Mais oui.
S'insoumettre d'une certaine manière, mais de manière individuelle.
Oui, ben, tu sais, le gros côté, parce qu'il y a toujours des côtés positifs et des négatifs dans toute chose. Le gros côté positif de cet épisode qu'on est en train de vivre, c'est que ça a incité tout le monde à se reposer les trois questions existentielles de la vie fondamentales. Et qui sont, qui suis-je? Je suis là pourquoi? Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, c'est clair. Et donc là, les gens ont eu le temps, l'opportunité et de se poser ces questions-là. À partir de ce moment-là, eh bien, on fait un choix. On fait un choix et si on décide que la seule chose la plus importante au monde, c'est de prendre soin de son corps et de sa vie, bah, à ce moment-là, on se rappelle que le business, c'est exactement l'opposé. Je te rappelle encore Steve Jobs qui avait 300 milliards de dollars de réserves pour ses retraites. Ça ne lui a pas suffi pour se payer un nouveau pancréas. Parce que c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son système immunitaire qui va nous permettre d'éviter la maladie plutôt qu'autre chose. Et là, il faut voir que bon, la modification des retraites vient d'être votée encore pendant qu'on était confiné. Bien entendu, ça a été voté. Donc, il y a plein de lois qui sont votées pendant qu'on est confiné. Plein de choses qui sont changées pendant qu'on n'est pas dans la rue. Donc, allez, vas-y, on peut installer plein de choses. Donc là, il faut choisir de est-ce qu'on veut prendre soin de soi. Et si on veut prendre soin de soi, ben, on ne peut pas attendre que les autres le fassent.
Alors, quand tu parlais de peur, il y a effectivement cette peur du virus, tout ça, on l'a bien expliqué. Mais il y a aussi cette peur d'être en rébellion. Là, maintenant, sortir effectivement sans son masque, c'est prendre le risque de devoir passer du temps avec nos gardiens de la paix pour des choses pas très agréables. C'est prendre un risque aussi qui est particulièrement, je trouve... destructeur sur le plan social, qui est d'avoir la critique de l'autre, qui va dire mais pourquoi t'as pas ton masque, etc.
C'est terrible. C'est,
voire même se voir refuser l'accès à certains lieux. On parlait des enfants, si on ne peut pas ne pas amener ses enfants masqués à l'école, à moins de les retirer.
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est justement de voir des gens que j'ai toujours cru et que je sais être intelligents. Qui d'un seul coup se retournent et sont dans une peur et disent quoi, tu portes pas de masque, mais tu y crois pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais tu prends un risque pour moi, ça c'est.
Il y a ce côté-là. Alors il y a ce côté-là, tu n'y crois pas, mais est-ce qu'il y a pas aussi, ça me fait penser à nos 300 ans de guerre de religion catholique protestant, beaucoup de protestants s'étaient convertis pour dire voilà, c'est bon, je suis comme vous, il y a pas de problème, mais au fond rien n'avait changé. D'autres qui se sont cachés pour pouvoir pratiquer correctement leur culte, s'exiler. Mais la plupart ont quand même fait oui, on se convertit, pas de problème. On est comme vous, n'y touchons plus. Et ils sont restés au fond eux-mêmes. Est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui mettent le masque ou qui suivent ces protocoles sans pour autant être soumis? Voilà, mais qu'ils le font pour pas se faire emmerder.
Mais écoute, moi, malheureusement, c'est pareil. Moi aussi, j'ai pas envie de me faire emprisonner. Quand je suis en face d'un homme ou d'une femme, je parle, j'explique le plus calmement possible ce que je ressens. Si je suis en face d'un robot ou de quelqu'un qui a peur, je sais qu'aucune discussion est possible.
Donc tu mets ton masque.
Donc je remets mon masque, je m'excuse et puis voilà. Et puis on passe à autre chose. Et c'est pour ça que je parle à la radio. C'est pour dire à tous ces gens-là, je veux dire, sincèrement, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de sympathie pour vous et de compréhension. Mais essayez de voir calmement, allez dans la montagne tout seul, essayez de ressentir si vous avez agi avec cœur ou avec ou par peur. Tu vois, c'est tout. L'argument principal, les gens vont dire, mais écoutez, c'est la loi. C'est la loi. Alors, la loi, c'est la dernière chose qu'il faut suivre. Alors, désolé, je vais peut-être me faire accrocher et me faire embarquer pour ce que je dis.
Je te censure.
Non, ça, c'est ce que j'apprécie aussi, parce que nos entretiens, les deux entretiens, y compris celui-là, même si on l'a enregistré avant, il n'a pas du tout été modifié, et on l'exprime tel quel, parce qu'on a le droit d'exprimer, on peut faire des erreurs, c'est pas grave, mais on n'est pas là pour censurer, et puis pour s'auto-censurer, et puis pour travailler ce qu'on a. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on dit « la loi, c'est la loi, c'est une direction ». Ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas confondre la règle et l'esprit de la règle.
Oui, normalement, c'est ça. C'est quelque chose de librement consenti. Et puis,
voilà.
Le collectif est d'accord.
Voilà. Donc, c'est vrai que de temps en temps, il faut rappeler un peu aux ordres. Tu vois, j'ai vu ce matin, en venant à la radio, les policiers municipaux qui verbalisaient une voiture, mais qui étaient garés complètement de travers. Donc, à un moment donné, il faut rappeler aux gens, quand même, il y a un minimum de choses. Et je pense qu'il faut quand même rappeler que Nelson Mandela est quand même un exemple. Si Steve Jobs est l'exemple dans l'autre sens, Nelson Mandela est vraiment l'exemple dans ce sens-là. C'est-à-dire que face à toutes ces injonctions de mettre un masque, de rester chez soi, on peut se plier parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on n'y arrive pas, ou bien on peut monter au niveau de sa foi et exprimer sa foi correctement. Et maintenant, je le vois de plus en plus. Hein. J'ai vu des personnes qui discutaient avec les gardiens de la paix et qui restaient droits, calmes, et qui disaient non. Moi, je ne porte pas de masque. Moi, je ne porte pas de masque parce que pour ma santé, j'ai besoin de respirer. Je sais que si je porte le masque, il y a suffisamment d'études qui ont été faites et j'ai plus de chances d'affaiblir mon système immunitaire et d'être malade qu'autre chose. Et d'autre part, je ne suis pas malade, donc je n'infecte personne. Je ne dérange personne. L'air appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de respirer. Non, mais attends, tout le monde a le droit de respirer.
Et la réponse alors du.
Eh bien, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et bon, je ne peux pas en dire plus parce que c'est à chacun d'exprimer sa foi, mais je rappelle quand même que Nelson Mandela, il a quand même réussi à ramener un pays entier au bord de la révolte sans armes, sans nouvelles lois, sans rien du tout et avec un pardon total. Donc nous, la difficulté, c'est que je vois, c'est que même des gens comme Emmanuel Macron et tous les autres, il faut être capable de pardonner si on veut tourner la page. Il faut dire, OK.
Donc, on les condamne pas, on les poursuit pas. On leur dit, bon, c'est pas grave, vous avez déconné.
Moi, personnellement, je pense que.
Comme dirait Darmanin, vous avez déconné.
Ouais, non. C'est difficile à dire. Hein. J'ai pas de solution. Moi, j'exprime simplement ce à quoi je crois. Je crois à la force du pardon et je crois à la force de la foi personnelle. Tu sais, petite histoire, après, je suis pas là pour raconter ma vie, mais l'apartheid, tu connais. L'apartheid en Afrique du Sud, il se trouve que moi, j'étais en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Donc, je l'ai vécu. Et puis, étant donné que j'étais un petit coopérant là-bas, et que j'étais là-bas, j'avais réussi à faire ça au lieu de faire mon service national, eh bien, j'ai fait service social dans une ambassade, et donc j'ai bénéficié d'un passeport diplomatique. Et je peux te dire que ça a été une super expérience, parce que je comprends très bien la grosse tête que des gens comme Benalla, qui a le titre de préfet, passeport diplomatique, etc., peuvent avoir, parce qu'avec un passeport diplomatique, on rentre partout. Mais partout. Mais c'est incroyable, le pouvoir de ces outils, de ces titres et de l'argent. Ça, c'est incroyable. Mais ce que je voulais simplement raconter, c'est que c'était l'apartheid. Donc l'apartheid, ça veut dire que dans tous les magasins, il y avait une porte pour blanc, une porte pour noir. Et celui qui rentrait dans la porte qui n'était pas voulu, mais il allait en tôle. Hein. On ne plaisantait pas là-dessus. C'était clair. Il y avait vraiment une séparation totale.
Donc c'était dur aussi pour les Blancs, en fait, à vivre.
Ah, c'était dur. Non, les Blancs, ils n'en avaient rien à foutre parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de magasins pour eux.
Tu voulais dire un Noir qui rentrait pas dans la bonne porte.
Oui, le Blanc, lui, non, il n'avait rien.
Il avait le droit de rentrer dans une porte de Noir.
Il n'y rentrait pas. Il n'y rentrait pas parce qu'il y avait une sorte de dénigrement officiel, en tout cas de surface, par rapport à la population. Il y avait 4 millions de Blancs et 20 millions de Noirs à l'époque. La loi, c'était ça. Mais grâce à mon passeport, et puis étant donné que j'étais jeune, souriant et avenant, donc j'allais partout. Et je suis allé souvent dans les fermes. Et dans les fermes, eh bien, loin des policiers, loin de tous les contrôles, eh bien, je peux te dire que les bourgs, les anglophones et les anciens français qui étaient là-bas, ils éduquaient les petits noirs avec leurs propres enfants, à la même table. Donc ça, c'est, ils étaient complètement hors la loi. Donc là, ce que je veux dire, tu vois, c'est si ça a pu tenir et si ça a pu évoluer, c'est justement parce qu'il y avait un creuset de gens très importants, mais pas officiellement, pas dans les aéroports, pas dans les grandes villes, mais un nombre de gens très importants qui étaient intégrés avec la population noire, qui parlaient les différentes langues, qui étaient là. Et nous, c'est pareil.
Et qui ont fait ce travail de fourmis,
voilà,
cachées. Mais nous, masqué, tiens, justement.
Mais, bien sûr, ouais, masqué. Mais nous, c'est pareil, on peut pas nous interdire de nous recevoir. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, là où on va, l'autre qui va dire, attends, il faut faire manger nos vieux dans la cuisine, séparer la bûche en deux. Non, mais attends, où on va ? Non, mais
ça, c'est quand même... C'est quand même extrêmement coquin.
Non, mais il y en a qui... Mais ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Et c'est ce que j'ai entendu.
Dire aux gens comment ils doivent manger, c'est ou quoi,
Lorsque les gens ont trop d'argent, ont un niveau un niveau qui est trop haut, on ne peut plus discuter.
Est-ce que le pouvoir rend fou ?
Oui.
Ouais, oui. Comme cette espèce de crise d'autorité.
Excepté quand il y a des gens du niveau de Nelson Mandela, de Pablo Fujita, je crois, tu sais, en Afrique du Sud. Il y en a quelques-uns comme ça, quelques présidents qui ont réussi, mais qui...
En Bolivie aussi.
Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Mais il y en a très, très peu qui continuent de vivre normalement, qui vont faire leurs courses en ville sans garde du corps, même Angela Merkel. Hein, que je ne suis pas forcément pour, hein, mais je dirais au moins, elle a un salaire normal, elle va faire ses courses toute seule, elle vit pas dans un palais.
Ouais.
Elle vit pas dans un palais. En Suède, c'est pareil. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Tu vois, donc, je vois pas pourquoi nous, les gens, ont besoin d'avoir une telle protection. La raison pour laquelle les ultra-riches ont besoin de grande protection, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est de l'argent qu'ils ont injustement. Et donc, ils veulent pas le perdre, c'est tout. Ouais. Mais nous, on est pareil, tu sais, à un niveau. Quand on a un certain avoir, on s'accroche à notre avoir comme des fous, donc on ne veut pas le perdre. Et à chaque fois qu'on s'accroche à quelque chose, s'accrocher à nos retraites, c'est une folie. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait une croix dessus. J'ai compris, je me suis dit, non, les retraites, il n'y en aura jamais. On est en train de changer de système. Le système, maintenant, c'est plus de compter sur un investissement de l'argent papier qui, de toutes les façons, va chuter complètement. L'intérêt des retraites, c'est d'abord de ne pas s'arrêter d'avoir une activité et puis de partager tout ce que l'on a. Nous, en France...
De transmettre et de partager, de communiquer,
de continuer de vivre jusqu'au dernier jour. Qu'est-ce qu'on va te dire ? Attends, à partir de 60 ans, boum, ou n'importe quoi, ça y est, t'es plus bon à rien, tu vis plus. Moi, j'ai un projet pour les 30 ans à venir. Je peux te dire que je m'y accroche jusqu'au dernier jour. Ça, il n'y a pas de problème.
Alors, ce à quoi il faut qu'on s'accroche, c'est à la nature qui est autour de nous, qu'on essaie de nous empêcher d'aller,
voilà.
À nos valeurs sociales,
voilà.
À l'amour.
Et puis, être très concret. Tu vois, moi, quelque chose qui m'a énormément choqué de voir la dernière fois, c'est de voir 20 policiers armés, jeunes, qui viennent au marché Adi. De voir un appel attentat au lycée de Adi. Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? C'est uniquement pour entretenir la peur. C'est pas avec 90 bazookas qu'on va pouvoir lutter contre le virus. C'est pas possible. C'est pas en entraînant des jeunes au maniement des armes qu'on va lutter contre le virus. Mais pas du tout, on l'accélère. Lorsqu'il y a eu, parce qu'on a quand même quelques incidents à 10, c'est sûr, il y a une bagarre en pleine nuit et avec des armes blanches rue Émile Laurent, il n'y avait plus de policiers, de gendarmes disponibles. Hein. Ils ont tous été utilisés. Et quand il y a eu... alors là, je le dis encore, je le dis parce que tout le monde le sait, plus ou moins, mais on ne veut pas le regarder. Lorsqu'on voit au VFF deux belles voitures qui viennent de Marseille et uniquement pour un trafic de drogue dur sur 10, alors là, il n'y avait personne. Là, il n'y avait personne. Là, on laisse faire. Il faut voir, on a besoin des ressources. S'il y a 20 personnes, 20 jeunes de Valence qui sont disponibles, alors moi j'ai 1200 arbustes à planter ici à Truchard et 120 arbres fruitiers, je les embauche tout de suite. Je leur fais une formation, mais pas d'armes. Moi je crois que la règle voudrait que quand on est au marché Adi, personne n'a d'armes. Qu'est-ce que ça veut dire d'amener des armes ? On n'est pas en guerre. Si quelqu'un a envie d'être en guerre, qu'il soit en guerre, mais qu'il soit en guerre tout seul. Que les présidents se battent entre eux. Nous, on n'a pas envie de se battre. On a envie de vivre. On a envie de vivre. On a envie de se dire bonjour. On a envie de se serrer dans les bras. C'est se serrer dans les bras et se dire bonjour et ce sourire qui nous guérit, qui nous permet de vivre et de ne pas tomber malade. Donc, je m'exprime un petit peu fortement, mais j'y crois énormément. Et j'y crois énormément. Il faut changer, quoi. Il faut arrêter. Et encore une fois, pour terminer ta réponse, et ben c'est avec le plus de foi possible, le plus de gentillesse possible, pas de violence. Vraiment la main dans la main avec les gardiens de la paix, avec les professionnels de santé, avec les serviteurs de l'État, tous ensemble, la main dans la main, on doit retrouver notre droit de respirer, notre droit de communiquer, notre droit de nous aimer et de grandir ensemble. C'est tout. Voilà un peu ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui.
Merci Jean-Loup.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.